Bonjour à toutes et à tous, enchanté de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto sur le 106,6 de Campus Lille et sur Internet, bien sûr. Pour cette dernière émission du mois de mai, nous avons rendez-vous avec notre ambassadrice de la moto, Patricia. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes.
Au sommaire, Patricia, tu nous proposes aujourd'hui de retrouver Alice Peuple.
Voilà, pour nous parler de l'association Femmes et Moto. Une association qui s'est créée en 2022, qui a marqué très très fort cette première année et qui évolue de manière très créative, et nous voulions vous la présenter.
La suite du sommaire de cette émission avec Pierre Laurence et Stéphane Gornès, le maire de Molette.
Oui, à Molette, le 25 juin, tiendra le West Music Festival. C'est la deuxième édition. Et il y a un programme très, très riche qui est concocté par une équipe très chaleureuse. Et Molette est une jolie ville qui vaut le coup du déplacement. Et donc, vous allez pouvoir passer une journée formidable avec un nombre impressionnant de motos qui seront présentes, et tout ça pour une entrée gratuite.
Voilà, et nous avons Yves Coutel ici dans les studios. Je te laisse présenter.
Oui, donc nous allons parler du livre « Désir de liberté » de Guy Bernard Ego, et que nous aurons le plaisir d'interviewer, et qui sera avec nous en nous téléphonant de l'Irlande, où il est actuellement sur une petite île.
Et préciser que c'est un écrivain et qui est d'origine de la région. Hein.
C'est un écrivain, un motard d'origine de la région, et qui va nous parler de la moto déjà dans les années 70.
Très bien, voilà. On dit bonjour à notre ami technicien Laurent. Et on passe notre première page musicale et on se retrouve forcément juste après.
Baby, baby,
Le magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h, c'est sur le 106,6 de Radio Campus Lille. Et nous avons Alice Peuple de Femmes et Moto, Patricia.
Oui, je suis très très heureuse qu'on puisse accueillir Alice à l'antenne pour nous parler de cette association très très dynamique, vraiment très intéressante dans la démarche par rapport aux motardes, donc Femmes et Moto. Disons, en m'intéressant à la genèse de cette association, j'ai découvert une motarde immergée très tôt dans l'univers motard, dont l'itinéraire pour moi vaut vraiment la peine de s'y arrêter, et je suis très impatiente qu'on puisse justement partager toutes ces informations concernant une femme très impliquée dans le monde de la moto. Voilà, Alice, c'est donc de toi dont je parle. Je te remercie de nous faire le cadeau de ta participation à l'émission. Et donc, cette Femme et Moto, c'est le fruit donc d'une association.
Exactement. D'abord, je voulais te remercier pour cette intro parce que je me suis dit, mais de qui ? Qui est cette femme incroyable dont tu parles ? Merci beaucoup, ça me touche beaucoup, tous tes mots, parce que ça veut dire que parfois, il y a des gens qui comprennent le sens que je mets dans ce que je fais. Donc voilà, c'était juste pour te remercier beaucoup pour cet accueil chaleureux. Femmes et Moto, c'est une association que j'ai créée en 2022. Je l'ai créé d'abord pour servir de cadre à l'organisation d'un festival que j'ai organisé, qui a eu lieu en septembre 2022 dans les Hautes-Alpes, un festival moto 100% motarde, donc dédié aux motards uniquement, qui a rassemblé 150 personnes à côté de Gap, à Aspres-sur-Buëch, sur un super petit aérodrome dans un décor de rêve. Parce que moi, mon rêve, c'était qu'on fasse comme aux États-Unis, comme en Angleterre, en Allemagne, en Italie, qu'on ait enfin un festival 100% motarde en France. Je l'ai attendu, je ne l'ai pas vu venir et je me suis lancée. Et pour ça, j'ai créé l'association Femmes et Moto. Ça permettait d'avoir un cadre un peu d'organisation, un cadre administratif et un interlocuteur installé pour les partenaires.
Alors, tu vois, il y a des rencontres qui se complètent. Moi, j'avais vu l'info passer par rapport à ce premier festival, et puis j'avais essayé de contacter l'équipe, et puis organisatrice, et puis je vois plus moyen de s'inscrire, donc bon, du coup j'ai dit bon, je vais m'y intéresser un petit peu plus tard, peut-être à la deuxième édition. Et nous avions eu comme invité Fanette Cyclette, donc Fanette Bossuit, et qui a participé plusieurs fois à l'émission, et donc qui nous a raconté l'expérience qu'elle avait vécue très très positive lors de ce festival. Elle a eu la grande gentillesse de partager aussi tes coordonnées, donc ton numéro de téléphone en l'occurrence, et qu'on puisse rentrer en contact. Et c'est ce qui est génial en fait dans cette communauté, qui se constitue par rapport aux événements, par rapport à des rencontres comme celle-là, de pouvoir justement partager des choses. Et de ce que j'ai lire, ce qui a été très important au départ, c'est la place d'Instagram et la communauté qui s'est constituée par rapport à justement de la volonté de partager des expériences, de créer du lien, de créer un univers un peu de femmes qui vont toutes apporter un petit peu leur pierre à l'édifice de cette expérience motarde, on va dire. C'est-à-dire que ce soit les débutantes, les personnes ayant beaucoup plus d'expérience, etc. Et donc, cette place-là, au niveau de la communication, c'est quelque chose que tu sembles vraiment très bien maîtriser.
Alors, mon secret, c'est que c'est mon métier. Donc, je pars avec un assez gros avantage par rapport à n'importe qui voudrait lancer un projet et une communauté sur Internet et les réseaux sociaux. C'est que moi, c'est ce que je vends comme service à mes clients, c'est ce que je pratique au quotidien. C'est aussi ce que j'aime faire, parce que mes projets perso, ils prennent place aussi. Alors, je suis encore de la génération Instagram, même si je commence à me mettre à TikTok, mais mes projets prennent place sur Facebook à l'époque et Instagram aujourd'hui. Donc voilà, j'ai cette grande chance, c'est que la communication, la création du message, le marketing dans le sens positif du terme, c'est-à-dire comment faire comprendre aux gens ce que je suis en train de construire, ben voilà, j'ai étudié ça, ça fait 15 ans que je suis consultante, 5 ans que je suis à mon compte, donc j'ai à la fois le temps de m'organiser et l'expérience pour le faire. Mais c'est un média qui peut être un peu décrié parce que les réseaux sociaux, ça peut être aussi le meilleur comme le pire. Mais sans les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que j'aurais su mener à terme ce projet et ce festival. Parce que moi, j'ai zéro expérience en événementiel. C'était vraiment mon premier baptême du feu. Ça brûle, donc ça, je l'ai appris. Mais j'avais au moins pour moi le concept très clair dans mon esprit et toute ma capacité à communiquer. Et très vite, je me suis dit, au-delà du concept du festival et du message qu'on lance à partir du mois de février, où on va d'abord annoncer ce concept, prendre la température, ensuite ouvrir la billetterie, ensuite annoncer les partenaires, et puis mettre en place les activités, les réservations et tout ça. Comme tu l'as dit, on a été complet, on a vendu tous nos billets jusqu'au mois de septembre, donc ça, c'était un succès pour moi. Il y avait aussi comment on fait vivre et monter cette communauté, parce que si c'est juste créer un compte pour vendre quelque chose à la fin, pour moi, c'est pas pérenne. Il y a un côté un seul objectif et puis les gens n'ont pas d'intérêt à rester. Donc, ce que je voulais pour vraiment illustrer mon propos et mon envie, c'est qu'on mette en avant toutes les motardes. Et très vite, j'ai lancé cette idée de portrait. Et en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. N'importe quelle motarde qui découvre le compte ou qui nous suit depuis longtemps, qui a envie de nous envoyer sa photo, sa vidéo et un texte, qui se présente, qui nous dit de quoi elle est fière, et ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, moto ou pas, qu'est-ce qui lui plaît dans la communauté motarde, ben, elle nous envoie un MP et on diffuse ça au fil de l'eau. Et ça me tenait à cœur parce que, notamment sur Instagram, on voit, et ça c'est le propre des algorithmes, toujours un même style de femme, notamment à moto, souvent très jolie, souvent mince, souvent blanche, souvent les cheveux longs, qui posent sur des belles photos. C'est voilà, les gens forcément aiment ce qui est beau, ce qui est esthétique dans le monde dans lequel on vit, donc ils like ça et c'est ce qu'on voit le plus. Mais moi, je ne me considère pas faisant partie de cette masse de mannequins. Et j'ai envie de voir des femmes différentes, des femmes de toute corpulence, de toute origine sociale et aussi de toute expérience. Et je crois que dans nos portraits, on a autant des femmes qui ont une cinquantaine d'années et qui roulent depuis 30 ans, des femmes de 60 ans qui viennent de passer le permis, des jeunes de 20 ans qui sont en A2 et qui ne connaissent personne qui fait de la moto autour d'elles et qui un jour, je ne sais pas d'où ça leur est venu, se sont levés et se sont dit « je vais passer mon permis » et qui ont galéré et qui y sont allés. On a des mères de famille, des femmes célibataires, des femmes hétéros, des femmes lesbiennes, on a de tout. Et au festival, on avait cette diversité-là et je trouve que cette diversité, on ne la voit pas beaucoup dans le monde en général et encore moins dans la moto. Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille dans la vie, mais Je voulais vraiment que Femmes et Motos, ça soit le plus large possible, que toutes celles qui ne se retrouvent pas dans les représentations habituelles de la femme dans les médias aient envie de venir prendre la parole et te dire, en fait, moi aussi, non seulement je peux participer à quelque chose, mais je peux aussi être actrice, prendre le micro, prendre l'appareil photo, prendre le guidon, me montrer. Et les retours qu'on a à chaque fois qu'on poste des portraits, c'est super parce qu'en fait, moi, une fois que j'ai posté le portrait, j'interviens plus. Et il y a d'autres femmes, d'autres motardes qui nous suivent, qui ne connaissent pas la motarde qui est dans le portrait, qui viennent, qui disent « c'est génial, merci pour l'inspiration » ou « bravo, continue ». Et moi, je trouve ça extraordinaire. On a un groupe sur Facebook, je crois qu'on est pas loin de 1500, où à chaque fois qu'il y en a une qui vient et qui poste « voilà ce que je fais » ou « voilà où je galère », et ben il y a 10 autres meufs qui arrivent et qui disent « j'ai le même problème, on va l'affronter ensemble, je l'ai déjà eu, voilà comment je l'ai dépassé, prends confiance en toi ». Pour moi, en fait, le boulot, il est fait, parce que c'est ça que je voulais voir prendre forme. Moi, mon rôle, en fait, dans mon esprit, c'est d'allumer la mèche et après prendra ce qui prendra, les femmes qui se sentent concernées, intéressées, voilà, je peux comprendre qu'il y ait des femmes beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus fortes, qui n'ont pas besoin de cette communauté, mais je pense qu'on est quand même assez nombreuses à se sentir parfois un peu seules, un peu manquant de moyens, manquant de confiance pour avancer vers des trucs qui nous font envie, et on ne pense pas que c'est pour nous, et il suffit juste de voir quelqu'un qui nous ressemble faire le premier pas pour qu'on en clie derrière, quoi.
Et je trouve que toutes ce commentaire que tu as sur ton activité et sur les possibilités, moi, me fortifie dans la lecture, puisque c'était surtout à partir des articles que j'ai pu croiser, je me suis dit que je pouvais dépasser un peu l'a priori que j'avais au départ. Quand j'ai vu le concept, je me suis dit, bon, il faut voir ce que ça va devenir. Et parce que c'est une association très récente, il y avait eu comme ça quelque chose de très fort au départ, et je me suis dit, ça va aboutir sur quoi ? Sur des valorisations, quoi, ou de produits ou autres, ou je ne savais pas ce que ça allait pouvoir faire. Et là, j'aimerais beaucoup que tu nous détailles, mais après le morceau de musique qu'on va pouvoir écouter, que tu nous détailles justement, après cette année forte 2022, le devenir de Femmes et Motos en 2023. Us of them red, white, and blue, living hard, living proof. For some, right or wrong, oh, the list goes on and on. All I seen, still don't know what I see on this road. Father climb, father fall, out of the light, higher the wall, out of is the wide your call. Memories and regrets, love is lost and not loved yet. Sons of thunder, God's war, I'm still looking for. I can rise like a mountain, roll like a wheel, run like a river through the door.
Le magazine de la moto tous les dimanches à partir de 11h, ça sur Campus Lille 106,6 et www.campuslille.com. Toujours avec Alice Peuple de Femmes en Moto, Patricien.
Oui, voilà, on reprend avec toi Alice pour justement nous préciser ce Femmes et Moto. propose à toutes les motardes pour 2023?
Alors en 2023, on se remet de la première édition. On a essayé de lancer une deuxième, mais ça ne se fera pas cette année en tout cas, parce que 2023, c'est une année compliquée, notamment dans le secteur de la moto, et on n'avait pas les ressources à la fois humaines et financières pour le faire. Et on change un petit peu de formule, on reste sur donner envie aux femmes. Et en fait, là, on va proposer des événements. Donc, on a déjà fait un atelier mécanique. Il y a déjà 2 week-ends de ride au programme et on est en train de programmer des balades 125 et des balades ailleurs en France, parce que moi, je suis dans le sud-est, donc c'est plus facile pour moi d'organiser ça. L'idée, c'est qu'en fait, n'importe quelle motarde qui a envie de créer un événement pas loin de chez elle, mais qui sait pas comment faire, elle nous envoie un message. Et nous, on lui met à disposition la structure de l'association, notre expérience, et on l'aide à monter cet événement, la communauté, la communication. Et voilà, donc en fait, l'idée, c'est vraiment de continuer toujours dans cette idée qu'il y a des trucs qu'on voit devant nous, on ne pense pas qu'on est capable de le faire, il suffit juste de sonner à la bonne porte et d'être bien entouré. Et en fait, tout est possible.
Et depuis le départ, en fait, il y a cette idée de donner des occasions aux personnes de se dépasser, mais de se surprendre à pouvoir se dépasser, même sur des choses qui sont, comment dire, accessibles, on dirait, dans l'absolu, mais où il pourrait y avoir un frein, mais dans le cadre d'une activité, on dépasse ce frein. Dès le festival, il y avait donc des activités qui étaient proposées, qui n'avaient rien à voir directement avec la moto, mais qui étaient un peu dans cette démarche-là de pouvoir essayer et se surprendre, malgré l'appréhension, de se surprendre à pouvoir le faire. Et à l'écoute d'un podcast te concernant, en particulier à celui proposé par Nadège Papini sur motomag.com, tu parlais justement de ton expérience de conduite off-road et la façon dont toi-même tu avais pu à certains moments dépasser ton appréhension ou la difficulté grâce, je dirais, à l'accompagnement bienveillant. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un élément très très important de la démarche que l'association Femmes et Moto a par rapport aux motardes.
C'est ça, c'est que bon, moi j'ai toujours peur en fraude, hein, tu vois, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on le fait qu'on va plus avoir peur. Mais j'aurais jamais fait du off-road toute seule, j'ai eu la chance. Parce que j'ai aussi un compte Instagram et que je suis aussi active dans la moto et sur Internet et avec des partenaires. J'ai eu la chance de faire une initiation off-road avec un champion du monde de rallye, Antoine Méo. J'aurais pas pu rêver meilleur prof. Le mec est patient, à l'écoute, et je me suis sentie absolument en confiance pour y aller, même en ayant peur. Mais l'idée, c'est pas qu'on devienne toutes des aventurières, qu'on monte toutes l'Everest. Je pense que le biais de cette médiatisation, d'être capable de faire mieux, c'est qu'on croit qu'il faut forcément faire quelque chose d'héroïque pour se dépasser. Et en fait, on a chacune nos limites. Et il suffit juste de les connaître, de savoir si cette peur, elle est légitime ou si elle tient juste au fait qu'on n'ose pas. Et à partir du moment où on a envie d'y aller, mais qu'on est retenu par quelque chose, encore une fois, il suffit juste d'aller l'exprimer, de l'assumer, cette peur, d'aller taper à la bonne porte et de dire « Ok, est-ce que tu peux venir avec moi? Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Et puis voilà, j'ai essayé de faire du flat track 2 fois. J'aurais adoré être une pilote de flat track. J'ai accepté qu'au bout de 2 fois, ça ne sera pas mon truc. Voilà. Et je ferai d'autres choses que je trouverai beaucoup plus intéressantes et dans lesquelles je m'épanouirai mieux. Mais c'est vraiment important d'essayer. Il n'y a que quand on aura essayé qu'on saura si c'est pour nous ou pas. Et en plus, comme ça, on n'a plus de regrets, quoi. Vraiment, l'idée, c'est d'être bien dans nos vies et en confiance avec soi-même et de mieux se connaître. Je pense que c'est ça la clé. C'est très psycho, mais la moto, je pense que tous les motards diront, il y a un côté très thérapie dedans. On a un problème, on enfourche sa moto et on est une autre personne, quoi. Et donc, je pense que se servir de la moto pour se dépasser, c'est le meilleur des endroits. Pour les femmes, c'est plus compliqué parce qu'on est moins nombreuses, mais en fait, c'est souvent des barrières qu'on a nous-mêmes dans notre tête. Je pense que la réalité, c'est pas que quand on est en moto et qu'on est une femme, tout le monde ne nous dit pas « tu n'es pas à ta place ». Il y en a qui le disent encore, malheureusement, il y en a qui le disent pas mais qui nous le font comprendre, mais beaucoup des blocages sont en nous. Et c'est pour ça qu'une communauté de femmes, ça aide aussi à… On comprend les problématiques des autres parce qu'on est entre nous et on est beaucoup plus on est confronté souvent aux mêmes problématiques et donc on est beaucoup plus à l'aise quand il y a quelqu'un qui est comme nous à côté qui comprend nos problématiques que dans une foule de gens inconnus, quoi.
Cette association, on peut la rejoindre avec une adhésion qui est quand même très modique.
Oui, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 30 euros pour l'année, c'est l'année calendaire. Il y a quelques bénéfices à adhérer, vous avez des codes promo de partenaires qu'on mobilise au fur et à mesure de l'année. Ça nous aide aussi, nous, à nous financer et aussi à montrer que les motards sont là et sont intéressés par ce genre de projet. Ça donne aussi accès avec des réductions aux événements qu'on organise. Mais vous pouvez aussi tout à fait participer à nos événements, nos week-ends, sans être adhérente. Il y a une autre façon de nous soutenir, c'est de nous suivre sur les réseaux. Femmes et motos, femmes au pluriel, moto au singulier. Voilà, on est partout, on a un site internet, on est sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. C'est une façon de suivre ce qu'on fait et d'échanger avec nous aussi, parce que nous, on aime quand les motardes, elles viennent nous parler.
J'ai été étonnée du tarif pour les week-ends proposés, vu le programme, et je m'attendais à plus.
On est une asso. Certes, on a un déficit à combler suite au premier festival, mais le but, c'est pas de gagner de l'argent, clairement. Le but, c'est que ça reste accessible à toutes. On a beaucoup parmi notre communauté des jeunes motardes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, qui ont déjà beaucoup investi dans le permis, dans l'équipement, dans les rides. Et il y a des week-ends super tout compris qui sont un peu plus luxueux. Il y a moins de choses accessibles. Et encore une fois, il y a un encadrement associatif. Hein. Voilà. On est assez humble sur ce qu'on propose. Viens qui a envie de partager nos valeurs. Et tout le monde, moi, mon but, je dis toujours, hein, c'est que j'ai pas vocation à créer un Club Med, en tout cas pas aujourd'hui. Mon but, c'est de donner l'occasion aux femmes de se rassembler. Après, c'est à chacune de faire de l'expérience quelque chose qui lui apporte quelque chose. Et là, c'est pas financier. C'est vraiment d'être présente. D'apporter sa bonne humeur, je sais pas moi, on a quelqu'un qui fait des images en drone, qui vient avec son drone par exemple sur les événements, quelqu'un qui fait de la musique, d'autres qui viennent chanter, c'est vraiment de venir avec ce qu'elles ont pour le partager, et si on rend ça financièrement accessible, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde de se joindre.
Et pourrais-tu aussi nous parler des podcasts que tu as commencé, c'est depuis 2018 à peu près, oui.
2017 en effet.
D'accord.
Un jour j'ai eu la chance de participer à une émission de radio, dans une vraie radio à France Inter, et puis je me suis dit mais c'est génial, comment faire ça dans ma vie, et j'ai découvert les podcasts, on était au tout début de ce qui se faisait en France. J'ai acheté un micro, j'étais avec un copain et voilà, on s'est lancé. La moto faisant partie de ma vie et on passe beaucoup de temps à parler moto, le sujet était tout trouvé et en fait c'est très simple. Aujourd'hui je le continue seul depuis quelques années. L'idée c'est vraiment quand je croise quelqu'un ou quand j'ai une idée de sujet que j'ai envie de discuter, voilà, je rassemble les gens soit en physique, soit autour d'un Zoom. J'enregistre tout ça et on parle d'un sujet. Il y en a un en stock qui parle du festival qui va sortir bientôt. Logiquement, j'ai un peu de mal à le sortir, mais il faut que le public l'entende. Mais voilà, on a parlé des médias, on parle de la posture de passagère, on parle de rouler en 125. Les sujets sont assez larges. Et moi, j'adore ça. J'adore échanger avec les gens, leur poser des questions, me faire changer d'avis, leur donner une autre vision de ce qu'ils pensaient. Et je trouve que c'est toujours très intéressant parce qu'il y a autant de façons de pratiquer la moto que de motards. On roule déjà avec des modèles ou des marques différentes. Et même dans notre pratique, on est tous différents. Et je trouve ça très intéressant de nous confronter aussi dans l'expression et pas seulement sur la route.
Et à l'écoute, on sent que tu adores ça. Donc, il faut pouvoir le dire, c'est au coin du pneu. Voilà, il y a 28 épisodes à ce jour, si je ne me trompe.
Je ne les ai plus en tête, mais je crois qu'on est par là. Et pareil, je suis sur une plateforme qui s'appelle Ocha, qui les héberge. Et sinon, on peut retrouver ça sur Instagram et Facebook, au coin du pneu.
Et sur Instagram, on peut te suivre sur...
Ça fait beaucoup de nouveaux comptes, c'est très bien. Moi, mon compte s'appelle A Chick on a Bike.
Une nana sur une moto, c'est ça?
Exactement.
C'est un peu le traitement, ça.
C'est littéralement ça. Voilà, moi j'ai la chance de temps en temps de travailler pour les guides Michelin, les guides moto. Donc je pars, que ce soit pour Michelin ou que ce soit pour moi, en général, dans la saison, je pars avec ma moto et je partage les belles vues, les belles routes, les bons restos, les bons hôtels. Et ça, c'est ma passion. Donc, en effet, j'aime bien partager ça sur les réseaux aussi.
Écoute, Alice, c'est génial. Ce qu'on peut te proposer, c'est à l'avenir, de pouvoir se retrouver comme ça et de partager à nouveau une expérience qui se sera encore enrichie et de reparler de femmes et motos.
Mais avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre émission et pour votre invitation.
Merci à toi, Alice.
À bientôt.
Voilà, nous sommes avec Pierre Laurence et Stéphane Gornès, le maire de Molettes dans les Yvelines, qui organise le dimanche 25 juin la deuxième édition du West Music Festival.
Bonjour.
Bonjour à, donc à vous deux et merci aussi à Emma qui nous a communiqué l'affiche du festival. Et donc on a trouvé que l'affiche était vraiment très tentante et que le geste était hyper sympa. On vous appelle pour en savoir plus puisque donc le 25 juin va avoir lieu le West Music Festival à Molettes. Ça fait pas très loin de Lille finalement, très bien situé. Et donc c'est la deuxième édition.
Exactement, c'est la deuxième édition. Après une édition 2022 qui était un coup d'essai, on a eu un tel succès sur la première édition que tout le monde a voulu rééditer évidemment l'événement. Et cette année, on a une édition où nous avons beaucoup plus de d'activités, beaucoup plus d'animation et beaucoup plus de stands que l'année dernière.
Oui, c'est une affiche vraiment qui donne envie, ne serait-ce que, bon, moi je suis allée un peu écouter les groupes, j'ai découvert vraiment des groupes de grande qualité, et l'an dernier c'était une expo de voitures américaines, et cette année vous l'ouvrez donc tous les deux aux motos.
Ah oui, exactement, oui. Nous aurons donc à peu près sur la journée, nous estimons en réel, avoir entre 80 et 100 véhicules américains, c'est-à-dire de voitures américaines, des années 50 aux années 90, voire 2010 et 2020. Nous avons aussi, sur la journée, nous pensons avoir à peu près 650 Harley-Davidson, plus près de 300 ou 400 motards et autres que Harley.
Ah, c'est impressionnant. Voilà. Oui, le nombre est impressionnant.
Et... c'est ce qu'on pense avoir sur la journée.
D'accord. Il faut donc aussi compléter effectivement avec les stands parce que ça a l'air d'être très, très ouvert aux exposants.
Tout à fait. En fait, on ouvre en fait, aux exposants. Alors évidemment, toujours sur le même thème, hein, sur l'Ouest américain, sur la moto, sur la Harley. Donc évidemment, les stands, Pierre va les détailler. C'est vraiment des stands qui sont qui nous font voyager le temps d'une journée, le temps d'une visite dans l'Ouest américain.
Nous avons un préparateur moto Harley, oui. Donc qui s'appelle Cycling Bike à Gazeran, qui est assez reconnu dans le milieu. Nous avons une petite jeune qui vient de se lancer dans le pinstriping sur véhicule ancien, véhicule américain et qui fait du lettrage. Nous avons une personne qui vient avec un stand de produits canadiens, whisky, bière canadienne et ainsi de suite. Par contre, là, c'est d'avant à emporter. Tout ce que vous pouvez trouver autour du Canada, il l'aura. Ensuite, nous avons aussi un truc qui est pour moi absolument sympa. Nous avons un sellier qui travaille uniquement avec des pots tannés sur les voitures américaines et sur les sièges de Harley. Il est vraiment spécialisé là-dedans. Ouais, nous avons encore d'autres choses comme ça, plein.
Et en plus de ces stands-là, nous avons après des stands, on va dire, d'animation. Puisque on a prévu, contrairement à l'an dernier, des activités pour les enfants, donc des promenades en poney, des jeux gonflables, également des jeux de fêtes foraines. Et puis, on a prévu également un rodéo mécanique pour se tester, encore une fois, au charme du travail du cow-boy. Voilà. Puis après, nous avons également des food trucks qui vont venir toute la journée. Donc là, c'est pareil. On a toutes les spécialités, hein, des spécialités de burgers, des spécialités belges. Nous avons des spécialités italiennes, aussi bien pour la restauration que pour les desserts, puisqu'il y a également des glaces italienne, la vraie glace italienne qui se mange au cornet. J'en ai certainement oublié. La brasserie du roi, évidemment, qui sera présente. Alors, la brasserie du roi, c'est une brasserie qui brasse sa propre bière à Versailles.
Une brasserie artisanale qui est située à Versailles.
Qui est située à Versailles, effectivement. D'accord. Et nous l'avons sélectionné parmi plusieurs autres. On voulait vraiment de la bière locale. Là, pour le coup, on est vraiment servi. Et en plus, c'est la bière royale. Donc, on a vraiment de la chance. On a sélectionné deux bières, une IPA et une blanche qui seront servies toute la journée.
Ouais, et puis en plus, en degré d'alcool, ça va aller pour ceux qui vont rouler.
Oui, on a prévu des... Justement, ils les ont brassés, ils vont les brasser spécifiquement pour nous. Et on leur a demandé justement de faire des bières pas trop fortes qui puissent être consommées justement par les motards qui pourraient repartir éventuellement après.
Ah, c'est super. Mais rien que ça, ça donne vraiment envie d'aller faire un tour, surtout dans un très beau coin, parce qu'il y a vraiment de jolies routes par chez vous.
Oui, nous aurons aussi l'association... un club de bikers qui s'appelle Lone Wolf, qui font en fait de l'aide aux personnes indigentes qui ont besoin de vêtements, de produits d'hygiène et ainsi de suite.
D'accord.
Et donc, eux organisent avec nous des promenades et des baptêmes moto.
Super. Et en plus de tout ça, il y a la musique. Ça, Stéphane va pouvoir nous en parler.
Oui, alors là, effectivement, sur la musique... On voulait évidemment toujours être dans le thème ouest américain. Donc en fait, on balaye le rock des années 50 jusqu'aux années 80-90. Et avec des animations en fait, qui auront lieu aussi toute la journée, avec un défilé de pin-up, avec des cours de rock, avec des cours et des démonstrations de country. Voilà, merci. Voilà, donc c'est... l'idée, c'est les gens vont arriver à 11h du matin et on veut les garder toute la journée, qu'ils s'amusent au maximum et qu'ils puissent repartir le soir à 21h en ayant profité au maximum et en famille.
Oui, voilà, dans l'idée. Et il faut donc ajouter que ça démarre dès 11h.
Oui.
Hein, tout ça va durer comme ça pendant 10h pour faire la fête. Et oui. C'est une entrée gratuite.
Tout à fait. Oui, l'entrée est gratuite. Oui. Ouais, ouais. Pour nous, c'est important. C'est important en fait que tout le monde puisse accéder à cet événement. On a l'appui logistique de l'Intermarché qui est juste à côté, et du coup, les gens vont pouvoir se garer sur le parking d'Intermarché. On pourra vraiment profiter de cet appui-là, et c'est extrêmement important pour accueillir. Toute la journée, plus de 3-4 000 personnes.
Bah, je suis vraiment très impressionnée par le programme, par tout ce qui se prépare pour accueillir très chaleureusement les gens qui vont venir découvrir. Ça donne envie de venir à Molette, ça c'est sûr.
On sera heureux d'accueillir les gens. Et puis c'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, la région est très très sympa.
Ouais.
C'est l'occasion de faire des tours en moto, effectivement, dans des coins assez... assez magnifique. C'est la campagne, mais en même temps, on est juste à côté de la ville de Houdan, qui est une ancienne ville médiévale. Donc, il y a des choses à visiter. Il y a des bons restaurants également. S'il y a des gens qui veulent venir, par exemple, le samedi, dormir dans le coin et passer leur week-end sur le Houdanais, c'est l'occasion.
Une super occasion, en tous les cas.
Et ouais.
On vous remercie très très fort pour tous ces détails concernant le West Music Festival. Donc, on le rappelle, ça va être le 25 juin à Molette. C'est un très très joli coin à découvrir. Un super programme sur la journée. On vous souhaite les meilleures conditions météo,
oui.
Un grand soleil. Et même si les meilleures conditions météo n'étaient pas réunies, vu tout ce qui est proposé, je pense que ça peut être que fantastique pour les gens qui vont vous venir vous rejoindre.
C'est très gentil, merci. On espère effectivement que ce sera top. Et effectivement, un point qui est important aussi pour les motards qui vont venir et pour les gens qui exposent leur voiture, le parking est sécurisé. On a des agents de sécurité en fait qui sont prévus, qui tourneront autour de l'événement. Donc ils peuvent poser leur voiture et leur moto sans aucun problème. Il y aura personne qui risquera de les abîmer, quoi. Voilà.
On va remettre l'affiche concernant le festival et puis les liens pour vous contacter, vous demander plus de détails, je vois pas lesquels, mais en tous les cas pour avoir le plaisir de vous suivre.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour votre intérêt pour ce festival. Pour trouver Molette, c'est simple. Hein. Vous prenez la Nationale 12 et vous allez tout droit. En venant de Dreux ou en venant de Paris. Et vous tombez sur Molette. Enfin, voilà, on sera heureux d'accueillir tous les motards qui voudront nous rejoindre. Et les non-motards d'ailleurs qui aiment découvrir
toute une culture. Pas seulement motarde, mais c'est très très intéressant. Merci, un grand merci à toute l'équipe, parce qu'il y a toute une équipe derrière pour réussir une telle fête.
Exactement.
Derrière, il y a 50 personnes.
Il y a 50 personnes qui tournent, effectivement. Emma, qui est chef de projet de l'événement, et qui organise depuis 2 ans cet événement et qui est appuyé par une cinquantaine de personnes effectivement autour d'elle.
J'ai une question à vous poser, monsieur le maire, vous êtes motard ?
Et non, je suis cycliste.
Ah, oui. Ah bah c'est du deux roues.
Vous roulez sur deux roues.
C'est du deux roues.
Non mais c'est bien d'avoir un maire qui participe aux activités des associations et motoclubs.
D'être aussi impliqué.
Ben voilà, d'être impliqué, oui.
Ouais,
mais je suis dans le monde associatif depuis, j'ai envie de dire, ma naissance. J'ai ce côté. J'aime pouvoir justement proposer un maximum d'activités et de loisirs aux habitants parce que pour moi, je trouve que c'est véritablement l'occasion de développer le lien social et le lien intergénérationnel.
Tout à fait. Ouais. Un grand bravo. Merci.
Merci. Bien, merci à vous.
Merci à vous.
Merci. Au revoir. We'll be right back. Au téléphone, nous avons Guy Bernard Ego, Patricia. Alors, c'est l'écrivain, c'est l'auteur du livre de Désir de liberté.
Oui, un super livre qui est disponible aux éditions Le Lys Bleu et que nous avons confié à notre lecteur motard Yves Coutel. Et Yves est avec nous pour pouvoir justement nous parler de ce livre et aussi interviewer son auteur.
Oui, alors c'était un vrai plaisir de rencontrer Guy Bernard Ego et puis aussi un vrai plaisir de lire ce livre. Et surtout, Guy Bernard, tu m'entends là ?
Oui, pas de problème.
Bon, ben voilà, donc on va essayer de parler un petit peu assez librement, un peu comme on a fait quand on était au café, quand on s'est rencontrés. Et puis là, maintenant, j'ai lu ce bouquin, donc j'ai beaucoup aimé. Et puis, ça commence un petit peu sur les origines de ton amour de la moto, après ce fameux concours dont tu as parlé, et puis après ce grand voyage que tu as pu faire dans des années 70, à un moment où on bougeait pas encore trop. Et après, la deuxième partie du livre, tu parles aussi des derniers voyages que tu as faits, après un petit accident de la vie aussi, et ce qui t'a remis en selle et pour repartir sur les routes... avec ton ami, voilà, ou ton frère même.
Voilà. Oui, exact.
Alors,
exact.
Tu peux nous parler un petit peu de l'origine du livre ? Pourquoi tu as écrit ce livre et puis ce qui t'a amené sur la moto un peu ?
Alors, l'origine du livre, elle était sans doute en gestation depuis très longtemps, mais comme toute idée, on ne sait pas forcément la formuler. Mais il a fallu qu'il y ait le Covid, en fait, et c'est ce fameux confinement pour que, dès le premier jour, justement, j'embraye sur ma page blanche et que je me lance sur les souvenirs qui ont animé, j'allais dire, ma jeunesse, d'une part. Je tenais à les mettre sur papier. C'est un peu une autobiographie que je voulais laisser pour expliquer à ma famille, des ressorts de mon état d'esprit qui a toujours été atypique par rapport à mes frères et sœurs. Donc d'avoir ce désir de liberté, voilà, ce désir de voyager, ce désir d'aller au-delà et à la rencontre d'eux, avec des points de suspension. Donc,
Oui, si je peux me permettre juste une petite réflexion comme ça. Mais c'est vrai, tu parles du confinement et là, il y a une coïncidence parce qu'on a donc interviewé une motarde et qui aussi, c'est à la faveur du confinement et donc on tombe sur ça se fait dans la même émission, l'idée de faire des choses, de pouvoir partager, communiquer. Et donc, juste cette petite réflexion-là, cette coïncidence, elle est motarde, là.
Oui.
Alors, tout à fait.
Guy Bernard, tu repars un peu des années 70 et puis tu commences un petit peu sur la moto et tu nous expliques un petit peu par quoi tu as commencé parce que tu étais étudiant, pas beaucoup de moyens, donc tu commences avec des petites motos et puis même voir des motos que tu répares, quoi.
Tout à fait. Donc c'est vrai que il a fallu... l'idée, c'était de braver l'interdit paternel. J'ai toujours été un peu rebelle dans ma façon d'être, peut-être encore maintenant. La preuve, c'est que je vous téléphone, vous m'interviewez, je suis au fin fond de l'Irlande sur une petite île qui s'appelle Achille Island. Et une fois de plus, le désir de liberté fera l'objet sans doute d'un deuxième livre. Donc, pour revenir à mes débuts, j'ai bravé à la fois l'interdit paternel dans la mesure où il était hors de question dans ma famille de rouler sur une moto, même sur un deux roues à la limite. Donc, ça a renforcé ce désir d'entreprendre, de réparer des vieux clous, de vieilles motos, de commencer à faire mes premières armes. Et même une BSA, d'ailleurs, British Small Arms, donc sans jeu de mots, de s'affranchir après sur une 175 Peugeot avec tous les aléas d'une vieille moto. à savoir des premières gamelles, des premières crevaisons, des pannes en pleine nature, bref, faire ses armes pour ensuite opter pour une 125 Honda monocylindre qui, en bonne Sherpa, comme je le dis dans le livre, m'a emmené faire le tour de la Yougoslavie. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Maintenant, c'est la Croatie, c'est la Slovénie, c'est le Monténégro, bref, toutes ces républiques.
Ça, c'est bien parce
Je peux
voilà. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on, dans le livre, on voit justement ton premier voyage en Yougoslavie. Et puis après, à la fin du livre, tu retournes donc en Croatie, en Bosnie-Herzégovine. Et puis tu retournes là-bas et tu vois un peu l'évolution aussi des choses, un petit peu. Hein.
Alors, c'est ce qui m'intéresse. Effectivement, c'est pas le tout de faire un livre, comme je dis, vroom vroom. Bon, qu'il est à la fois très axé sur la moto, bien sûr. Mais la moto est comme un cheval, je dirais. C'est un moyen de transport et surtout un moyen d'aller vers la population. On est souvent très atypique et fragile. Donc, les gens ressentent cette fragilité, j'allais dire, de l'équipage que l'on forme, surtout quand on est tout seul, j'allais dire, on n'a pas 36 motos en même temps. Et donc, on a souvent de très belles rencontres, des accueils inopinés, et c'est ce qui fait la richesse de la vie, d'une part, et la richesse, sans doute, aussi de ce livre. Comment dire, que j'ai voulu raconter sous forme d'anecdotes, en fait. C'est ça. C'est les anecdotes qui peuvent donner envie aussi à d'autres motards d'oser entreprendre un voyage et de ne pas avoir peur de se lancer sur la route.
C'est ça, exactement. tu t'encourages les gens à oser, et comme tu commences par des petits moyens, et donc tu dis c'est aussi à la portée de tout le monde, et le principal c'est de faire le premier pas aussi, hein, et d'oser et croire en ses rêves aussi un peu. Donc il y a aussi cette après on parle un petit peu du livre, on va avancer un petit peu dans le livre, et moi ce que j'ai bien aimé aussi c'était ce fameux concours qui te permet de réaliser ton raid que tu n'as toujours pas terminé d'ailleurs, mais
exact.
Et raconte un petit peu l'histoire de ce concours et comment tu as pu avoir une superbe BMW en passant un concours de moto journal et des pneus continentales.
Il y a des moments, je reste persuadé qu'on a des anges gardiens.
Un destin.
Donc j'en parle souvent dans les livres, aussi bien pour nous protéger face à des situations qui peuvent être dramatiques, ou nous donner ce qu'on appelle la chance. Et la chance, j'y crois pas. La chance, avant tout, il faut savoir la saisir. Hein. Donc il y a des facteurs de chance. Et c'est ce qui s'est produit, hein. C'est-à-dire que je revenais d'épreuves d'examens de faculté qui étaient très contraignantes pour moi. Et pour me vider la tête, effectivement, je passe chez le libraire lillois j'achète moto revue, oui, c'est cela. À l'intérieur, je découvre un petit encart marqué, racontez le voyage de votre vie et gagnez la moto de vos rêves. Quelque chose comme ça, organisé par les pneus continentales. Donc, ayant acheté ce moto-revue assez tard, hein, vu que c'était un hebdomadaire, il ne me restait que quelques jours pour oser me lancer dans l'écriture, parce que l'objet était de répondre à ce concours avec un objectif de 10 pages maximum. 10 pages, c'est beaucoup, mais c'est très court à la fois quand on est débordant d'idées. Donc ce voyage, j'allais dire, cette destination, je ne sais pourquoi je l'ai depuis mon enfance, elle était inscrite dans ma tête. Et pour moi, en deux minutes, je me suis dit, ce concours, il est pour moi. Hein, et pourtant, j'ai rarement les chevilles qui gonflent. j'ai rassemblé un peu mes idées qui étaient dans ma tête. Et je me suis enfermé à la bibliothèque municipale de Lille et puis j'ai commencé à faire. J'en ai fait une vingtaine de pages. Le plus dur est de condenser tout cela, d'en faire une dizaine. Comme je raconte dans ce livre, avec là aussi des aléas incroyables, ayant rédigé à l'époque, on avait, vu les faibles moyens, il n'y avait pas de photocopieuse, etc. Donc, mon original que j'ai envoyé, j'en ai absolument pas de copie. Et même mon père me souhaitait en avoir une copie. Et je lui ai dit, ben non, je n'ai pas de copie. Et donc, voilà, j'ai envoyé cette prose, on va dire. Et j'ai été le lauréat d'un concours qui avait, je crois, 274 000, je crois, réponses. Donc, c'était un concours mondial organisé par les pneus continentaux qui se remettaient en selle dans la moto. Et lorsque j'ai mis l'enveloppe dans la boîte aux lettres, j'étais persuadé que j'allais gagner le concours. Je ne sais pourquoi, mais j'avais cette prémonition. Bon, bref, okay. C'est tout. Hein.
Ok, voilà. Donc tu gagnes le concours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause et puis après, on va raconter la suite de l'histoire et surtout ce voyage extraordinaire que tu as fait et plein d'aventures à ce moment-là. Ok, on fait la petite pause musicale et on se retrouve après.
À tout de suite.
À tout de suite.
À tout de suite.
retour avec Guy Bernard Hugo, hein, l'auteur de ce livre de Désir de liberté.
Donc, Guy Bernard, écoute, là, on part. T'as gagné cette BM, mais c'est pas pour autant que le voyage il est prêt. Donc, ce que j'ai admiré, c'est que si tu es vraiment pro au départ, parce que tu fais ton pressbook, tu cherches des sponsors, tu finis par les trouver. Et même la préparation des moteurs par BM et des choses comme ça. Et puis vous partez de Lille à deux motos. Oui. Et donc, destination donc Katmandou, hein, c'est ça ?
Oui, Katmandou.
Routes de Katmandou à l'époque des années 70. Et puis, du coup, assez dangereux aussi. Pas de téléphone, rien du tout. Pas de connexion Internet. Des pays un peu risqués.
Puis, pas de carte bleue.
Pas de GPS.
Pas de GPS non plus. Non, c'était tout à la carte. Ouais. Et puis donc, vous partez là-bas. Et notamment, moi, j'ai beaucoup aimé. Entre autres, vous aviez même rencontré Maurice Schumann, je crois, qui vous avait fait des lettres de recommandation en Turquie, hein, des choses comme ça.
Oui. Enfin, pour l'ensemble du voyage, à travers les différentes ambassades que l'on aurait pu solliciter en cas de problème. Gros problème, j'en sais.
Ouais. D'accord. Et donc, cette traversée de la Turquie, là, moi, ça m'a beaucoup impressionné. Et surtout, derrière, dès que vous arrivez, bon, il y a les découvertes du Bosphore, et dès que vous arrivez à peu près dans des pays ou dans des coins où il y a un peu moins de monde, et vous allez à la Cappadoce, vous passez et vous continuez, oui. Et surtout les cols qui vont passer pour Lyon, et là, ça commence à être vraiment l'aventure, quoi. Et avant, il y a aussi une histoire d'accident. Tu peux nous raconter ça ?
Oui. Oui, parce qu'effectivement, avec André, qui était l'autre pilote, un jeune garçon de 19 ans à l'époque, que j'ai d'ailleurs retrouvé grâce au livre, hein, donc il habite Comines actuellement, il a une moto. Et donc, cet autre équipage, d'un seul coup, au loin, on voyait des taches blanches, etc. Et plus ça se rapprochait, plus on a deviné que c'était un troupeau de moutons qui était à 10-15 mètres de la route. Et au moment où je suis passé, j'étais en tête à l'époque, et les moutons, comme les moutons de panurge, il y en a un qui a traversé, tout le troupeau a traversé. Honnêtement, moi j'ai guidonné pendant, sur une centaine de mètres, difficile à évaluer. Tout ce que je sais, c'est que ça a tapé et j'avais les bottes maculées de sang, les ailettes du bicylindre. Autant dire qu'il y avait des hémoglobines qui étaient collées avec les poils dans les ailettes. Bref, un coup d'œil dans le rétroviseur et j'ai vu que André et son compagnon de route étaient tombés, Michel, oui, c'est ça, c'était tombé sur la chaussée et donc la moto était endommagée, elle ne pouvait plus repartir, donc voilà, donc s'ensuit des tribulations, 2 heures d'arrêt, le trafic qui s'agglutine, un camion militaire qui arrive, qui déblaye la circulation, qui nous emmène, qui charge la moto, oui, voilà, et on se retrouve dans un campement militaire avec ce que je raconte dans le livre,
et heureusement que le berger a été reconnu un petit peu, entre guillemets, peut-être la chance que la Turquie voulait s'ouvrir aussi un peu aux touristes, et puis que vous avez été innocenté par ce tribunal, quoi.
Oui, enfin, c'est une saga qu'il faut vraiment lire dans le livre.
Mais c'est un peu l'aventure, quoi.
C'est l'aventure, parce qu'on parlait pas un mot de turc, bien sûr, et puis quand on est dans un pays en profondeur, on rencontre personne qui parle la langue, même pas d'anglais, rien du tout. Donc c'est heureusement qu'il y a eu l'arrivée de ce gradé militaire qui parlait l'anglais, enfin, et qui a pu comprendre la situation, que nous, on avait des assurances, et que, il n'y a pas les mêmes normes entre, j'allais dire, l'Orient et l'Occident, on va dire. Donc, quand il a compris que nous, c'était tout. Le voyage était peut-être, altéré, mais il n'était pas question que ce berger paye toute sa vie un incident pour lequel il aurait été reconnu coupable. Voilà. Ça, ce sont des grands mots, mais qui prennent beaucoup de proportions dans ces pays-là. Donc, c'est voilà. Sûr.
Et donc, vous traversez donc les cols et vous arrivez donc en Iran. Et là aussi, il y a beaucoup d'aventures. Et là aussi, c'était risqué à l'époque. Oui. c'était risqué à l'époque, c'est-à-dire que les camions même se faisaient attaquer et dépouiller. Donc vous arrivez, vous, à passer et vous arrivez en Iran. Et là, tu décris très bien l'Iran, c'est très joli, hein, voyager en Iran. Alors moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'ai connu un peu l'Iran, mais après le Shah avec les ayatollahs. Et toi, tu l'as connu avant, mais c'est toujours aussi fliqué. Oui. C'est toujours un pays qui est sous pression et qui simplement, c'est une dictature, quoi, quelque part, tout le temps, avec très peu de liberté. Donc on retrouvait les mêmes choses, mais par contre, une très grande générosité des gens aussi. Et toi, tu décris tout le voyage et les routes, les difficultés aussi en moto, c'est-à-dire que tu prenais des tu peux parler un petit peu des précautions que tu prenais, parce que sur la route, ce n'était pas évident avec la BM et avec la chaleur et toutes ces choses-là.
Déjà, quand tu dis vous, donc, c'est-à-dire que moi, nous sommes partis une seule moto, donc la mienne, avec ma passagère, hein, qui était ma copine et qui est devenue ma femme. Et donc, nous avons effectivement bravé cette route internationale qui reliait... c'est cette fameuse émission, pour ceux qui sont de notre génération, de Max Meunier,
les routiers.
Qui était les routiers sont sympas. Et effectivement, quand il décrivait certains témoignages de routiers, j'ai honnêtement pu vous constater et voir de mes yeux ces fameux camions qui étaient attaqués, qui étaient dans les ravins et pillés. Donc ça, je le décris dans le livre. Ensuite, le passage en Iran, effectivement, la première surprise, c'est le premier panneau qui, avec une petite tente bleue type Automobile Club, où le camping suivant, on va dire, le lieu d'accueil, je crois que c'était 707 km ou 717 km. Donc ça fait très, très bizarre. Et c'est vrai que quand on voit la nuit tomber, il faut savoir prendre prendre des décisions. Alors c'est vrai qu'entre les serpents, les scorpions, on s'habitue. On s'habitue à tout, hein, de toute façon. Et donc, la traversée de l'Iran, elle s'est faite du nord jusqu'au sud, en fait. Hein, j'ai vraiment vu... et une bonne partie de l'ouest de la Turquie, de l'Iran.
De l'Iran, oui.
Donc, ce sont des villes fascinantes, Ispahan, Persépolis, Shiraz. Et c'est vrai que des températures, pour rebondir sur ce que tu disais, des températures qui peuvent aller jusqu'à 50 degrés. Hein. Là, c'est quelque chose de très, très particulier, de très suffocant, où on sent que son cœur ralentit... terriblement. Hein. Donc, il faut aller de poche d'ombre en poche d'ombre. Et quand on est sur la moto, on a tendance à accélérer pour avoir un peu d'air. Mais c'est toujours de l'air chaud, hein, de l'air brûlant.
Donc, tu décris très bien ça. Et puis, il y a aussi les rencontres aussi. Il y a ces rencontres avec ce minibus Volkswagen allemand qui vous rencontrez plusieurs fois. Et je pense que ce sont devenus des amis, non ?
Exactement, et à tel point que l'histoire continue. Sans se concerter, c'est Dieter et Rosemary, donc mes amis, sont en Irlande actuellement. Et nous avons promis de nous rencontrer d'ici quelques jours, au hasard de nos routes. On va caler notre... Maintenant, il y a le téléphone portable. C'est assez facile de se mettre un point de jonction, mais c'est assez curieux. C'est pour ça que je dis que... il n'y a pas de hasard, hein, et que c'est pas une histoire de chance, c'est une histoire de... Oui, il y a un destin, hein, et c'est ce qui m'anime, c'est ce qui m'a animé dans mes voyages suivants, et ceux à venir encore.
D'accord. Donc après, l'aventure doit se terminer, tu es obligé de raccourcir, parce que tu dois repasser des sessions d'examen, et tu apprends ça sur la route.
C'est ça. Donc ça a été un dilemme, hein, de devoir faire demi-tour. Donc c'est assez curieux parce que j'ai vraiment eu une nuit de réflexion. Hein. Je pouvais pas quelque part faire ça à mes parents, c'est une façon de parler. Mais si j'abandonnais mes études, c'était peut-être aussi des efforts qu'ils avaient faits, des efforts financiers. Donc je me voyais pas. Ils m'ont fait confiance de me laisser. Quand je dis me laisser partir. La majorité était à 21 ans à l'époque, mais je les avais. Mais quand même, les parents, on était très respectueux quand même des parents. Et oui, donc, je ne pouvais pas leur faire ça. Alors que alors que j'avais la possibilité finalement d'avoir à mon retour une direction d'une agence de nouvelles frontières. Ça m'avait été formulé.
Et quand tu apprends ça, tu es dans quel pays ?
En Iran. J'étais à
Téhéran. Ah, tu es toujours en Iran, oui. Et là, donc, tu fais demi-tour, là.
Je fais demi-tour, non. Je décide de visiter l'Iran de fond en comble.
D'accord.
Et après de retourner. Parce que finalement, quand on est en Iran, déjà sur la mer Caspienne, on n'est pas très loin de l'Afghanistan. Et puis les distances s'amenuisent. J'allais dire qu'on a vaincu tellement d'appréhension que ça n'est plus rien de faire des kilomètres. Et on a vaincu la peur, on a vaincu, je sais pas, l'inhibition. C'est l'Afghanistan, c'est le Pakistan, c'est l'Inde.
Et l'Inde. Oui.
Ça paraît très proche finalement. J'allais dire que le plus dur est fait. Ouais. C'est le premier pas qui est le plus dur, c'est d'oser partir.
Il y a un dicton finnois qui dit une marche de 1000 km commence toujours par le premier pas. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Donc tu vas rentrer, et puis surprise, sans téléphone, sans rien, il va même surprendre ses parents qui sont en vacances, comme ça.
Oui.
C'est inconcevable maintenant, mais c'est comme ça. Et puis, l'histoire s'arrête un petit peu. Et pour reprendre, en 2013, à peu près, après les péripéties et de la vie, et là, tu vas repartir en Croatie, mais là, avec une nouvelle BM toute moderne, et tu vas voir un petit peu la Croatie moderne, avec le tourisme, avec la côte d'Almat, et les choses comme ça. Je vais un peu vite, parce que c'est vrai, on avance.
Oui.
Et pour finir, après, sur un beau voyage aux US, avec une belle description des voyages aux US tels qu'on peut les faire maintenant, avec tout y est organisé. Et ça, tu le fais pour, quelque part, c'est de l'amour fraternel, parce que c'est ton frère qui te fait partir un petit peu pour lui changer les idées. C'est ça, hein ?
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et donc,
mon frère venait de perdre sa femme, oui, effectivement.
Et donc, après, maintenant, quels sont tes projets, alors, du coup ?
Alors, c'est-à-dire qu'après, j'entame mon deuxième livre. Hein, il est à moitié fait. Donc, avec Marie, ma concubine, nous sommes partis aux États-Unis, effectivement. Après, nous avons fait un voyage à partir d'Amiens jusqu'en Arménie, hein, donc en passant tous les pays dits de l'Est et la Turquie, la Géorgie, l'Arménie, et puis retour par la Turquie, la Grèce, l'Italie. Et c'est justement en Grèce que j'ai rencontré des membres de l'équipe de Kikinkou Tetupal. Donc là aussi, curieusement.
Ah, je pense voir qui tu parles, oui.
Oui.
Voilà. Donc le monde est petit.
Et oui, donc c'est assez curieux. Et après ce voyage, nous avons fait un voyage effectivement vers la Russie, hein, donc tous les pays baltes. Et après, pour des raisons d'assurance et de court séjour, nous avons pris le train à Riga pour Moscou, Saint-Pétersbourg et revenir. Et parce qu'en fait, notre voyage initial devait nous emmener en Mongolie. Mais j'ai pas eu les autorisations, je me suis mal débrouillé pour avoir une double entrée et sortie du territoire russe. Donc c'est assez compliqué et je n'avais pas le temps matériel de revoir ma copie. Mais puis maintenant, malheureusement, il y a la guerre en Ukraine qui fait qu'on peut plus passer par ces pays-là. Hein, en ce moment, c'est que ça soit l'Iran, que ça soit la Russie, hein, donc ce que j'envisage effectivement, c'est un vol comme la Mongolie ne me quitte pas, c'est de prendre un vol pour Oulan-Bator et de là louer une moto sur place pour pouvoir faire mon voyage en Mongolie et après prendre le Mongolie pas express mais je sais plus le train, l'Orient, oui bref, et me rendre en Chine. Et prendre après le train le plus haut du monde, la ligne qui mène jusqu'à Lhasa au Tibet.
D'accord, donc tu arriveras au Tibet, après, mais par la Chine. Bon.
Par la Chine, voilà.
Regarde, tout ça est décrit, tout ce que tu as dit là, c'est décrit dans ce livre, Un désir de liberté.
Alors, oui.
Moi, j'encourage vraiment à lire. En plus, c'est très précis, tes souvenirs sont très précis, tu décris très bien les choses. Je me demande comment tu fais. Hein.
Oui.
Franchement, je n'arrive pas à me souvenir des choses comme ça. Et puis, au début, il y a un petit peu l'entrée en matière, mais dès que tu es parti, franchement, le style et les choses, bah, on voyage avec toi, quoi. Donc, c'est un très beau bouquin. Et vraiment, ça encourage aussi, surtout avec la fin, d'ailleurs, aussi. Enfin, entre le début, la 125, maintenant, oui. Je connais des jeunes, ils n'osaient pas partir avec leur 125. Bon, ça va, ils l'ont fait, maintenant. Mais, bon, les quelque chose de plus confortable, de plus établi. Hein, mais il y a de quoi faire pour tout un chacun. Et tout le monde peut vivre son désir de liberté et tout le monde peut partir. C'est un petit peu le message du livre. Alors, c'est très bien écrit. Et oui. Vraiment, j'encourage l'achat de ce livre. Alors, on va essayer de le promouvoir un petit peu auprès des libraires locaux, ce que tu as commencé à faire. Mais sinon, on peut le trouver sur le site du Lys Bleu et puis on l'a par correspondance. Voilà, hein, c'est ça. Hein.
Et on l'a, il est disponible dans toutes les librairies. Hein. Il D'accord. peut être commandé dans toutes les librairies. Aussi. Il n'y a pas qu'à le commander au Lys Bleu. Hein. Donc, D'accord. Peut, voilà. Tous les libraires peuvent le commander et il n'y a pas de problème. Hein. Donc, chez son libraire du coin.
Très bien, voilà. C'est parfait. Enfin, comme,
Très bien, Guy Bernard.
Je te remercie beaucoup, Guy Bernard.
Attends, une question. C'est incroyable la technique. Hein. On a l'impression que tu es dans les studios. Mais on sait, en fait, tu es là-bas en Irlande sur une petite île. Et quel temps fait-il là-bas en Irlande?
Très beau. Très Alors, beau. C'est une île où le temps peut changer, c'est comme la Bretagne,
Oui.
où il peut pleuvoir 10 fois par jour. Mais automatiquement il y aura 10 éclaircies.
Ah bah
et
oui,
là,
voilà.
On a un temps super. Il y a des nuages qui sont sur les montagnes, mais sinon il fait très beau. Voilà.
Ben, c'est parfait. Écoute, je te souhaite une bonne fin de voyage et puis à bientôt et dans la vraie vie à ce moment-là. Allez, au revoir.
Bien sûr, oui, tout à fait. Bonjour à toute l'équipe.
Merci, au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Voilà, l'émission se termine. Salut à toutes et à tous. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même endroit, sur les ondes de Radio Campus Lille. Bye.